France Inter.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Aujourd'hui, direction le Mexique, en compagnie de deux écrivains curieux du monde et des autres.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassel.
Nous recevrons d'abord le prix Nobel de littérature Jean-Marie Gustave Le Clézio pour un voyage vers sa patrie de cœur. Dans Trois Mexiques, il rend grâce à trois figures tutélaires de son panthéon personnel, la poétesse féministe Sœur Juana Inés de la Cruz, le romancier mythique Juan Rulfo et l'historien de la micro-histoire Luis González. Arrivé au Mexique dans les années 60, Jean-Marie Gustave Le Clézio y a vécu une révélation, tombant amoureux de sa littérature, de sa musique et de son passé amérindien. Il explore ici le chemin du labyrinthe, cherchant l'âme profonde de ce pays qu'il définit comme un torrent de culture et de résistance. Avec lui, j'aurai le plaisir d'accueillir l'écrivain voyageur Sylvain Prudhomme pour un périple épique de 2500 km en autostop le long de la ligne de démarcation entre les États-Unis et le Mexique. Dans son dernier livre Coyote, il capture les voix de ceux qui rencontrent au hasard des routes, mécanos, dealers, agents de la Border Patrol ou simples rêveurs. Son récit est un patchwork de vie lié par la frontière où chaque monologue se clôt par la trace unique d'un portrait au Polaroid. Ensemble, nous parlerons des identités nomades et de ce besoin qu'ont l'un et l'autre d'aller voir ailleurs. À l'heure des replis sur soi et des frontières qui se ferment, leur livre rappelle que la littérature est aussi un passage, un chemin de liberté dans lequel tout peut circuler. Nous parlerons des langues, ces territoires mouvants, et tout au long de l'émission, nous retrouverons justement nos libraires francophones pour leurs questions et conseils de lecture. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Jean-Marie Gustave Le Clézio, Sylvain Prudhomme, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, on ne peut pas parler du Mexique pendant une heure sans évoquer ce qui se passe de l'autre côté de la frontière en ce moment, aux États-Unis, avec cette police de l'immigration qui tue, qui terrorise, et un président qui semble chercher la guerre civile quand il ne cherche pas la Troisième Guerre mondiale tout court. Jean-Marie Gustave Le Clézio, vous parlez à un moment dans votre livre de régime policier au sujet des États-Unis.
Oui, en particulier la frontière, c'est une zone de guerre aux États-Unis. Ça l'a été depuis longtemps, c'est pas récent. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, les souris étant les immigrés qui tentent de passer la frontière, qui passent en fraude, et le chat de l'autre côté, personnage assez désagréable, qui s'embusque, qui cherche à attraper la souris. Quand il l'attrape, la mange ou la met dans une boîte.
Vous, Sylvain Prudhomme, vous dites pas chat-souris, vous dites coyote et poulet.
Oui, parce que ce sont des mots qu'on utilise là-bas. Enfin, voilà, les coyotes sont ceux qui se font payer pour aider les migrants à passer, et donc les poulets sont ceux qui se font très souvent dépouiller par les coyotes qui les rançonnent. Mais c'est vrai qu'en ce moment, tout ça prend une couleur tellement tellement violente, tellement dramatique. Dans tout ce contexte, à chaque fois, moi, ça me frappe de voir la dignité infinie, absolue de Claudia Sheinbaum côté mexicain, la présidente du Mexique, qui garde une hauteur, à tout ce que dit Trump. Enfin voilà, c'est assez. Enfin, je suis très admiratif de sa façon de tenir tête à tout ça.
Dans votre livre, donc vous avez parcouru la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Dans votre livre, vous racontez que vous avez rencontré un agent justement de l'ICE, cette police de l'immigration.
Oui, c'est vrai, je le rencontre à la toute fin du voyage. Et à vrai dire, je rate un peu la conversation avec lui parce que on est dans des paysages magnifiques. On est en train d'arriver vers l'Atlantique et je suis au soulagement que le voyage se termine. Et c'est magnifique, c'est en allant vers South Padre Island. Et c'est qu'à la toute fin que je lui demande son métier, ce que d'habitude je faisais toujours. Et il me dit, je suis agent de l'ICE et mon métier est d'expulser des illégaux, comme on dit. Et encore aujourd'hui, on vient d'en expulser. Et malheureusement, on se quitte. Et quand on descend d'une voiture, vous ne pouvez pas le retenir beaucoup pour lui poser toutes les questions que j'avais envie de lui poser. Mais voilà.
Alors, la majorité des gens que vous rencontrez, Sylvain Prudhomme, trouvent l'idée du mur grotesque. Mais il y en a un, Simon, qui vous prend en autostop à El Paso et qui vous dit ces mots, je vous lis. « Qu'est-ce que c'est Trump ? Une marionnette, un jouet, son mur c'est rien, c'est du vent, ça n'a pas la moindre existence, tout ce qui se passe aux États-Unis est écrit depuis 100 ans, tout, chaque chose est écrite, qu'est-ce qu'on croit, que Trump est vraiment le président des États-Unis, que c'est vraiment lui qui commande, je suis pas content de son idée de mur, bien sûr que non, je suis pas content, et en même temps ça me réjouit, je me dis peut-être que les gens vont enfin ouvrir les yeux. » Je trouve qu'il y a quelque chose de, d'assez juste quand il dit « Tout ce qui se passe aux États-Unis est écrit depuis 100 ans », peut-être même avant Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Il faut voir que c'est une tradition aux États-Unis d'expulser. Le plus grand nombre d'expulsés, ça a été à l'époque de Barack Obama. Et on ne le dit pas,
mais oui,
Barack
assez,
Obama a expulsé énormément de gens. Donc ça fait partie, je crois, du système politique américain, et de rendre l'intégration et la pénétration du territoire plus difficile possible. Et donc ces organismes dont on parle, l'ICE, comme la police de la Migra, la police des immigrés, ce sont des organismes qui n'ont pas d'autre raison d'être que de chercher la personne à expulser. Je parlais du jeu du chat et de la souris, parce que la souris, de son côté, son jeu consiste à essayer de déjouer les ruses du chat. Et la souris est plus rusée que le chat. Le chat est paresseux. Donc, très souvent, il ne fait pas bien son travail.
Et tant mieux.
Oui, tant mieux, bien sûr. Parce qu'il faut, quand même insister sur le fait que la frontière, c'est une abstraction, ça n'existe pas. Les animaux passent la frontière, les oiseaux survolent la frontière, les populations amérindiennes circulaient à travers la frontière sans problème. Et jusqu'à des temps assez récents, traverser la frontière n'était pas un problème. Mais moi-même, dans les années 60, j'ai passé la frontière sans aucun problème. Je passais souvent par Columbus et je regardais de chaque côté du poste de contrôle. Il y avait une étendue libre, j'aurais pu faire le tour du bâtiment où somnolait l'officier d'immigration et entrer au Mexique ou à l'inverse, venir du Mexique, entrer aux États-Unis sans passer par la cahute. Donc c'est assez récent cette maladie de construire des murs. La muraille, et ça c'est une partie de la population américaine réclame la muraille. C'est complètement absurde.
Oui, c'est ce que vous dites très bien d'ailleurs, Sylvain Prudhomme, c'est que ce mur il sert à rien.
Beaucoup, en tout cas, beaucoup de gens qui vivent le long de ce mur le disent. Enfin, que en tout cas, c'est pas ça qui va empêcher les gens de passer, si. Enfin, et puis que de toute façon, ils passent pas par là. Enfin, la Trump, ils veulent le faire surélever. À un moment, il parlait même de le peindre en noir pour que ce soit plus chaud. Comme si les gens escaladaient, c'est fou, ça dit quelque chose de l'imaginaire en fait. Et de toute façon, principalement, les gens passent par les postes frontières. Enfin, c'est là quand même qu'il y a des dizaines de milliers de camions qui passent tout le temps. C'est pas très difficile de passer là. On va loin des fois dans le, oui, dans le fantasme en fait. C'est ça qui est. Ouais.
Et que peut la littérature dans tout ça, Sylvain Prudhomme, Jean-Marie Gustave Le Clézio parlait tout à l'heure de l'absence de frontières.
Moi, je suis assez convaincu que ce que peut la littérature, c'est faire entendre un peu ce que vivent les gens, en fait, raconter un peu de quoi sont faites toutes les vies, et en fait, la haine, la xénophobie incroyable qu'il y a envers eux, elle est basée sur une méconnaissance totale de leur réalité, de qui ils sont. On est tellement dans l'imaginaire, dans les fantasmes, quand on se connaît, quand on se rencontre, et la littérature, elle permet ça, parce qu'en fait, il y a une chose que j'ai trouvé magnifique dans le livre de Jean-Marie, c'est le moment où vous dites que Juan Rulfo, il y a la jubilation de faire entendre la voix des gens du peuple. et que derrière cette jubilation, il y a un peu la vengeance aussi contre les riches et les puissants. Et ça me semblait tellement juste, en fait. Ils parlent tout le temps, les Trump, tout ça, on les entend à longueur de journée, d'une parole qui est, voilà, et tout d'un coup, enfin, qui est largement fantasmatique, creuse, ou toute prête, quoi. C'est de la brique, on le connaît par cœur. Et tout d'un coup, on est face à des gens dont c'est, on a la trame de leur vie. Pour eux, c'est le quotidien, ce mur qui passe ou qui passe pas. Certains ont un bip. Il y en a un, Louis, qui vend des avocats. Lui, il a une entreprise d'importation d'avocats. Il passe tous les jours avec un bip, comme au télépéage en France. Et d'autres qui ne passeront jamais, parce qu'évidemment, c'est impossible. Mais tout d'un coup, ça devient très concret. Et on voit que c'est des gens comme nous, je sais pas. Et je pense que ça... Comment dire, plein de fantômes et de sont immédiatement chassés, en fait. Je veux dire, là, je parle des... fantômes racistes, enfin voilà,
des préjugés.
Des préjugés, voilà.
Dans ce que vous venez de dire, je retiens la manière dont justement vous parlez de Trump et de tous ces gens-là qui parlent précisément la langue de tout le monde. Ce que vous cherchez, vous, Jean-Marie Gustave Le Clézio, dans vos trois Mexiques, c'est aussi des auteurs qui ont vraiment leur propre langage.
Le langage littéraire, ça n'a rien à voir avec le langage parlé, c'est très différent. C'est vrai, ce que dit M. Prudhomme, c'est vrai, c'est que la littérature, c'est le domaine le plus résolument opposé à toute interdiction, à toute limitation et donc à toute frontière. La littérature n'a pas de frontière, on le sait, ça. On le sait parce qu'elle n'a pas d'autre raison d'être. Pourquoi écrire s'il fallait écrire juste pour son comté, son quartier ou sa petite ville ou sa province ou son pays, ça n'aurait aucun sens. Donc on lance des mots et on espère que ces mots vont s'envoler, ils vont passer les frontières, ils vont adopter d'autres langages, ils vont être traduits. Je pense que c'est ça profondément le but de la littérature. Et je pense que la littérature existe surtout parce qu'elle est l'expression d'une individualité qui se dépasse elle-même. Si on ne dépasse pas l'individu, si on reste cloisonné, si on ne veut pas communiquer avec les autres, ce n'est pas la peine. Et vous parlez de village, en effet, Luis González, c'est l'homme d'un village. Mais il raconte quelque chose de très étonnant et qui, à mon avis, rend le village universel. C'est que quand la révolution ou la guerre d'indépendance et la révolution ont éclaté au Mexique, avec le plan de Ayala, tout ce qui a fait bouger les masses, le village où il était s'est beaucoup plus intéressé à une aurore boréale. Il y avait à ce moment-là dans le ciel une aurore boréale. C'était beaucoup plus intéressant que ce qui se passait à 100 kilomètres de là. Donc ça veut dire que on peut être limité à l'endroit où on est, mais on peut dans cette limite acquérir cet esprit d'universalité, le fait d'admirer beaucoup plus l'aurore boréale que les nouvelles qui sont colportées, qui sont souvent menteuses et biaisées.
C'est le pouvoir de la poésie. J'ai retenu la même phrase que Sylvain Prudhomme au sujet de Juan Rulfo. Vous dites « Quand on le lit, on sent la jubilation qu'il éprouve à faire parler les gens du peuple, les ruraux, les incultes. C'est une vengeance qu'il exerce contre les riches et les puissants, mais sans issue révolutionnaire, comme la voix d'un inframonde presque animal. » On revient à l'animalité.
C'est la force de Rulfo, il est l'écho de quelque chose qu'il a reçu, d'une rumeur qu'il a reçue quand il était enfant, mais il l'a transformée. Et à chaque fois qu'on lui a dit qu'il faisait du réalisme, il a protesté, il a dit « La preuve que je ne fais pas de réalisme, c'est que tous les personnages de mes histoires, ce sont des spectres, ce ne sont pas des êtres vivants, ce sont des spectres. » Parce que la force que l'individu acquiert, elle va au-delà de sa propre vie et au-delà de la propriété sur laquelle il est assujetti. Et il y a ce goût à la fois de se dépasser, mais le goût d'aller voir ailleurs ce qui existe. Mais en même temps, ce goût est entaché de méfiance. On n'est pas très sûr que de l'autre côté, la vie soit meilleure. Et la réponse qu'on fait toujours aux gens qui veulent émigrer à San José de Gracia, on leur dit « Et pourquoi vous voulez aller là-bas? Est-ce qu'on n'y meurt pas ?»« Ben si, on meurt comme ailleurs, donc c'est pas la peine d'aller là-bas, vous mourrez aussi. » Et il y a ce double sentiment d'appartenir et en même temps ce sentiment qu'on n'arrivera jamais au bout de l'être humain, que l'être humain est sans limite.
Jean-Marie Gustave Leclésio, Sylvain Prudhomme, quand on revient, on entrera plus en détail dans vos livres. Mais d'abord, on écoute Swad Massi et Gaël Faye d'ici, de là-bas.
Secrète en nous dorme et résonne, nos ancêtres se tiennent par la main. d'ici, de là-bas, mon destin emporté par les vents. Donne-moi un printemps et je t'offrirai des fleurs.
Jean-Marie Gustave Leclésio, Sylvain Prudhomme, re-bienvenue dans l'émission, etc. Qu'est-ce qui vous plaît tant à l'un et à l'autre dans la culture mexicaine? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, Jean-Marie Gustave Leclésio?
Moi, j'aime bien le particulier dans le Mexique. C'est une fédération d'États, c'est une réunion de gens très, très, très différents les uns des autres. Les gens de Mexico ne sont pas les mêmes selon les quartiers. Et c'est très différent d'être de Mexico, d'être du Guanajuato, d'être de Morelia, d'être du Yucatan. C'est une association de gens qui, normalement, n'auraient pas dû être ensemble, mais que le hasard ou la nécessité des guerres, ou peut-être simplement l'évolution normale de l'humanité, a réunis dans cette fédération, dans cette république extraordinaire, qui est composée de cultures très différentes. Les cultures amérindiennes, les cultures africaines, la culture européenne, la culture métisse, les cultures accessoires qui sont venues d'ailleurs. Les Libanais au Mexique sont très importants. Les Juifs sont très importants aussi. Donc il y a eu tout ça qui s'est réuni. C'est pas un melting pot, mais c'est une rencontre parfois assez violente de ces peuples entre eux. Et un moment de grande violence, ça a été lorsque l'État mexicain, converti au marxisme, a voulu interdire la religion. Alors qu'est-ce qu'il faisait là? Ça a été un truc terrible. Le Mexique s'est insurgé. Ça a été la plus grande révolution du Mexique, celle des cristeros, qui se sont soulevés contre la capitale, les gens qui dorment dans des lits, contre ceux qui dorment par terre. Et là, ça a été une guerre très violente, très cruelle. Et Rulfo est issu de cette guerre. Et je dirais, d'une certaine façon, sœur Juana Inés de la Cruz annonce cette guerre et Luis González réconcilie les participants à cette guerre.
Jean-Marie Gustave Leclésio, ce n'est pas la première fois que vous écrivez sur le Mexique, loin de là. J'aimerais vous lire un extrait de ce texte qui s'appelait « Le rêve mexicain ou la pensée interrompue » qui a été publié en 1965. « Le Mexique est une terre de rêves. Je veux dire une terre faite de vérité, d'une vérité différente, d'une réalité différente. Pays de lumière extrême, pays de violence, où les passions essentielles sont plus visibles. Qu'est-ce qui fait du Mexique un des lieux privilégiés du mystère, de la légende? Est-ce la nature même du pays, terre de volcans, de déserts, de hauts plateaux si proches du ciel et du soleil, terre de jungles exubérantes, de plaines arides, de précipices, de canyons et de vallées profondes? Le Mexique a sans doute été, comme la Tahiti de Gauguin, le lieu privilégié du rêve du paradis perdu. Rêve d'un paradis perdu où la science des astres et la magie des dieux étaient confondues. » Qu'est-ce qui, dans tout cela, résonne le plus chez vous? On a vraiment l'impression que c'est la rencontre entre un pays, et encore une fois, la question des frontières, quand on parle d'un pays, elle est complètement floue. La rencontre entre un pays et un homme, est-ce que c'est le mythe du paradis perdu? Qu'est-ce qui
non,
dans tout ça?
Pas du tout. Simplement que le Mexique, c'est un pays qui vous aspire. Il vous inspire aussi, peut-être, mais qui vous aspire. Quand je lis Sylvain Prudhomme, j'ai le sentiment que je partage exactement ce sentiment qu'il éprouve quand il est devant la frontière, aller voir de l'autre côté, parce que c'est de l'autre côté que ça se passe. C'est pas de ce côté-ci, c'est de l'autre. Mais c'est un pays qui a en commun d'être peuplé d'êtres humains. Et ils ont cette dimension humaine qu'on trouve beaucoup moins quand on va de l'autre côté. Ils n'ont pas la liberté d'esprit qu'on trouve quand on passe la frontière, la liberté d'être soi-même. Ça veut dire d'être soi-même dans la générosité, dans la méchanceté, même dans le crime, mais d'être soi-même. Moi, ce qui me frappe au Mexique, quand je vais dans un petit village, c'est que quelqu'un d'âgé passe et immédiatement les gens sortent de leur maison et apportent une chaise pour qu'ils puissent s'asseoir. C'est quand même assez extraordinaire, ce réflexe d'apporter « asseyez-vous ». Et vous êtes bienvenus, on leur dit, vous êtes bienvenus, même si on ne vous connaît pas. Et ça, c'est absolument contraire à ce qui se passe de l'autre côté, où quand vous circulez, les gens appellent sur leur téléphone et ils appellent 911 pour dire « il y a un être bizarre qui marche dans la rue ». Et donc, la police arrive et rôde, ces voitures de police qui rôdent dans les rues, c'est terrifiant. Mais bon, dans les deux civilisations, il y a du bon et du mauvais. Et je crois que le bon l'emporte quand même en deçà de la frontière quand on est du côté mexicain. On est aspiré par la bonté.
Vous parlez de l'humanité, Sylvain Prudhomme, dans votre livre, vous faites le constat à un moment que vous avez été pris en autostop par beaucoup plus de Mexicains que d'Américains.
Oui, on peut pas mieux dire le contraste que vient de le faire Jean-Marie Le Clézio. C'est vrai que j'avais très souvent ce sentiment-là, qu'il y avait une hospitalité, oui, et puis du mouvement, de l'ambiance, enfin, ambiente et movimiento, comme là-bas ils disent ça, Juarez hay movimiento, et quelque chose que dès qu'on passe la frontière, on se retrouve quand même dans une effervescence, une chaleur, quelque chose quand même qui tout de suite fait qu'on... C'est vrai que quand vous dites ça nous aspire, ça nous inspire, je l'ai ressenti très fort. Moi, j'ai pas du tout votre familiarité avec le Mexique. J'y suis allé, voilà, deux fois, plusieurs semaines, enfin voilà. Et donc, c'était surtout dans le nord, d'ailleurs, du Mexique. Mais quand je lis les livres de Jean-Marie Le Clézio, c'est vrai que je me sens... Oui, ça me fait découvrir encore tout cet aspect multiculturel du Mexique que je connais moins.
Vous avez envie d'y retourner?
Oui, ça donne infiniment envie d'y retourner. Je me sens très proche de ce qui est raconté, de ce que vous ressentez. Moi, ce que je peux te dire des Mexicains que j'ai rencontrés, enfin voilà, parce qu'en fait, on s'est basé que sur un échantillon de... J'aimais aussi beaucoup parfois la douceur et de par exemple d'un José ou Armando qui étaient dans des situations, qui observaient des choses quand même constamment... scandaleuse ou douloureuse, José qui avait été ouvrier dans le bâtiment, qui raconte qu'il construisait les maisons, y compris de gardes frontières, qui passaient leur journée à essayer d'attraper les clandestins, et à une époque où il avait pas de papier, enfin. Ou Armando qui travaille dans une plantation de tomates et qui raconte que les ouvriers presque tous de la plantation viennent du Mexique chaque jour à 80 km de la frontière en bus. Et donc, il parlait de tout ça à chaque fois avec un sourire, une sorte de douceur, de distance aussi, d'amusement, de sourire, quoi, que je trouvais beau dans la... Bon, voilà, parce que, ouais, il y avait une sorte de sagesse quand même dans le regard, parce que, bon, voilà.
En tout cas, oui, effectivement, d'un point de vue statistique, vous dites à un moment, c'est 13 Mexicains pour un Américain.
Oui, bon, c'est vraiment ça, oui.
C'est fou, ça en dit long aussi sur le degré de peur qui règne aux États-Unis. Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Oui, et ce que j'ai aimé en lisant Sylvain Prudhomme, c'est qu'il me remplit d'aise, parce que on parle tout le temps du Mexique dans des conditions terribles. Il se passe des choses terribles au Mexique, c'est vrai. Et il y a la présence de la drogue, il y a le banditisme, il y a une cruauté, une violence extrême. Et elle existe, elle est réelle, elle n'est pas nouvelle. Elle a toujours existé au Mexique. Mais quand on lit le livre de Sylvain Prudhomme, on a l'impression qu'on danse au-dessus de tous ces événements, qu'on ne les voit pas, et on rencontre que des gens sympathiques. C'est ça qui est merveilleux.
Jean-Marie Gustave Le Clézio, compte en commun les trois auteurs que vous avez choisis, Sor Juana, Juan Rulfo et Luis González.
Je crois qu'ils ont en commun d'être l'essence même de ce qu'est le Mexique. C'est-à-dire que Sor Juana, elle est née dans un village indien. On parlait le nahuatl, et dès son enfance, elle a entendu parler le nahuatl, et elle a appris l'espagnol un peu en supplément. Et ensuite, elle s'est développée mentalement, elle a acquis d'autres langages, elle a appris le latin. Et donc, elle a lu des livres en latin. Et quand elle a commencé à écrire, elle a utilisé toutes ces langues. Et je crois que on peut faire le rapprochement avec Rulfo, qui est quelqu'un qui est à l'écoute du monde qui l'entoure et qui cherche à capter dans ce qui l'entoure, le bien et le mal. À l'époque, le bien et le mal, c'était le bien les cristeros, le mal les marxistes. Mais en même temps, sa maman lui montre les cristeros qui vont aller fusiller quelqu'un. Il passe dans la rue, elle lui cache les yeux pour qu'il ne voit pas cette troupe d'insurgés qui va aller fusiller des membres de la troupe ennemie. Et Luis González, c'est le produit de la terre, c'est quelqu'un qui appartient à un petit village. Il a grandi au milieu des vaches, des chevaux et des paysans qui vivent là. Et il porte en lui, peut-être la sagesse en tout cas, la bonhomie et le savoir-vivre des gens qui vivent dans un petit village de montagne isolé. C'est-à-dire que pour lui, l'histoire, puisqu'il a décidé de pratiquer l'histoire, l'histoire, ce ne sont pas les grands hommes, ce ne sont ni les grandes femmes, ce sont les gens du commun, ce sont les gens qui préparent à manger, ce sont les femmes qui conduisent le bétail dans les champs, ceux qui vont négocier la vente du fromage. C'est des petits gens comme ça qui vivent autour de lui. C'est ceux-là qui font l'histoire. Et il s'intéresse à cette histoire-là, parce que pour lui, cette histoire-là apporte beaucoup plus pour comprendre l'humanité que les grands événements politiques, que les grands discours politiques. D'ailleurs, il a la méfiance des terriens vis-à-vis de la politique. Il dit, moi j'ai décidé de pratiquer l'histoire parce que l'histoire a comme pour but de dire la vérité, alors que la politique a pour but de mentir. Les politiciens sont tous des menteurs. Il exagère peut-être, mais bon...
Vous le savez sans doute, dans l'émission on reçoit chaque semaine des libraires francophones. Cette semaine, Jean-Marie Gustave Le Clésio, parce qu'il n'y a pas de petit voyage, direction la Belgique, pour retrouver Aurélie Vergieux de la librairie Molière à Charleroi. Bonjour Aurélie. Alors, vous avez aimé le livre de Jean-Marie Gustave Le Clésio et en particulier le portrait qu'il fait, qu'il brosse de Juan Inés de la Cruz, cette poétesse du XVIIe siècle.
Alors effectivement, merci Monsieur Le Clésio de nous avoir donné à lire votre Trois Mexiques, dont le titre laconique et un peu mystérieux éveille la curiosité. Les Trois Mexiques dont vous parlez nous rappellent qu'une identité nationale et l'émotion qui y est liée est faite de toutes les couches qui composent l'histoire d'un pays et qu'elle ne peut jamais être simplifiée. Et vous consacrez effectivement plus de la moitié de votre œuvre à la sœur Juana Inés de la Cruz. Et pour moi, elle illustre parfaitement votre propos, puisqu'à elle seule, elle représente les Trois Mexiques dont vous parlez. D'abord par sa langue, parce qu'elle témoigne de l'époque préhispanique. Ensuite, par son métissage. Elle représente l'époque coloniale. Et enfin, par ses prises de position féministes. Et elle fait le lien avec notre époque, très actuelle, très moderne. J'ai découvert grâce à vous sa vie et son œuvre. Et je l'ai trouvée tellement émouvante, proche de nous, bien qu'éloignée de plus de trois siècles, tellement touchante.
Et vous aviez envie de nous lire l'un de ses poèmes.
Un extrait, en fait, un de ses poèmes, dans lequel elle s'adresse aux hommes méchants, entre guillemets, en disant « Elles sont toujours les perdantes, celles qui vous repoussent les plus. Quand elles vous refusent, est une ingrate. Mais si elles vous cèdent, elle est légère. Vous êtes tellement vaniteux, toujours prêt à blâmer. Ou bien elle est coupable d'être cruelle, ou bien c'est sa faute d'être trop facile. » Il y a beaucoup d'extraits de son œuvre dans votre livre, et ça m'a donné envie de la lire encore. Et heureusement, il y a un recueil de son œuvre qui est encore disponible aux éditions Gallimard.
Et quelle lecture avez-vous faite des personnages masculins, Aurélie ?
Alors, les deux autres auteurs, donc Juan Rulfo et Luis González, ils sont tous les deux issus du XXe siècle, donc c'est un peu différent par rapport à la sœur Juana. Mais avec elle, il permet de compléter le tableau en soulignant surtout, d'après moi, l'importance de la langue. D'ailleurs, vous l'avez dit pendant l'émission, la beauté du verbe. Parce que vous aimez les auteurs qui inventent un langage qui n'appartient qu'à eux seuls. Et ce sont eux que vous appelez les vrais écrivains. Mais l'amour des mots ne révèle toute sa splendeur que lorsqu'elle est accompagnée de silence. Et je pense que c'est aussi ce qui unit les trois auteurs que vous mettez en lumière dans votre livre. Parce que tous les trois, ils ont mis de la distance entre eux et le monde pour pouvoir mieux prendre du recul et le décrire. Juana s'est retirée dans un couvent. Juan a cessé d'écrire pour s'adonner à la photographie et Luis, depuis son village perché, raconte l'histoire des humains qui l'observent. Tous les trois dressent le portrait d'une comédie humaine et font coïncider le particulier avec l'universel. Et c'est là, je crois, que réside tout le pouvoir de la littérature.
Et Aurélie, vous aviez une question pour Jean-Marie Gustave Le Clésio.
J'avais envie de savoir si vous ressentez aussi le besoin de vous extraire des futilités du monde pour vous consacrer à l'écriture. Parce que personnellement, quand vous décrivez la cellule privée de Juana, dans laquelle elle peut méditer et se consacrer à sa passion pour le savoir et l'imagination, j'ai presque envie de faire pareil.
Oui, je ne pourrais pas me comparer à ces trois auteurs, parce que d'abord, je n'ai pas la même vie qu'eux. Donc voilà, ces trois silences sont très différents les uns des autres.
J'aimerais qu'on parle précisément de la manière dont vous vous y êtes pris l'un l'autre pour composer vos livres et cette question du silence qui m'intéresse aussi. On entre dans votre atelier d'écriture quand on revient.
Oula, faut que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins. Demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins. Faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père. On regardera le match tous les quatre. Pour ça faut que je l'appelle d'abord lui. Puis cette fille à qui j'avais promis. Déjà il y a 5 jours que demain je la contacterai c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti. Un podcast sur les interdits que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire, c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi, à qui en vouloir pour ça.
Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever.
À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappelle qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça, tu manques plus de rien. Moi, je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence? Pourquoi on souhaite être excellent? Quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent. Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent. Souvent. Mais ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste, pardon, tant pis, pardon, tant pis, pardon, tant pis.
Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. J'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever.
Avancer, se rassembler, s'enflancher, enjamber le chantier des pensées qui semblaient emmêlées. Je m'y collais sans délai, mes soucis prenez-les et l'angoisse tenez-la bien. Je vais shooter tant comme elle vient. Faut que je marche, parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche, parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche, parce que je pense quand je marche, parce que j'avance quand je marche, parce que je rêve quand je marche.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. C'était Quand je marche de Ben Mazuet et nous sommes toujours en compagnie des écrivains JMG Le Clésio et Sylvain Prudhomme. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, Au Livre, etc. Lilia Hassen.
Sylvain Prudhomme, l'idée de parcourir la frontière mexicaine, c'était à l'origine, c'était une demande d'une revue, la revue America. Et vous écrivez souvent, on s'inspire de ce qu'on a vécu pour écrire. Pour une fois, ça avait été le contraire. Je m'étais inspirée de ce que j'avais écrit pour vivre. C'est l'écriture qui vous a guidé.
Dans un livre antérieur, enfin, qui s'appelait Parler Rouge, il y avait un personnage d'autostoppeur qui... Il faisait du stop pour rencontrer des gens. Et là, moi, j'étais en train d'écrire ce livre à ce moment-là. Et quand America m'a fait la proposition de faire un reportage aux États-Unis, j'ai dit, je vais le faire en stop. Et on va voir si ça opère, si ça marche, cette histoire d'aller dans des voitures pour rencontrer des gens, de faire du stop à la fois pour traverser, pour parcourir un itinéraire, mais pour rencontrer des gens surtout. Et c'est vrai, je rebondis sur l'idée qu'on écrit toujours trop, on parle trop. Là, c'est vrai que c'est un livre où j'ai vraiment essayé de soustraire énormément, enfin, d'enlever.
Et c'est notamment les voix des autres.
Voilà, et notamment, j'avais peur de trop faire de commentaires. Je me suis refusé absolument à commenter, par exemple, ou à introduire les personnages, les gens que je rencontrais, en fait, à donner mon regard sur eux. En fait, je me suis dit, on va les faire parler simplement, et j'ai envie d'essayer de recréer, avec l'idée que c'est vraiment très précieux ce qu'ils m'ont dit, qu'il y a quelque chose de comme un petit pan de vie, un petit bout de vie qui est là, qui est rapporté de là-bas, et je voudrais que presque qu'ils apparaissent à nouveau vivants devant nous, quoi, comme si on était un peu dans leur habitacle, et moi me passer de tout commentaire.
Mais donc l'exercice de la promotion, c'est une forme de trahison.
c'est différent de parler du livre. De toute façon, je suis
vous êtes obligé de commenter ce que vous vouliez pas commenter.
Voilà, mais c'est encore autre chose de le faire dans le livre, de se refuser à le faire dans le livre lui-même, en fait. Et ça, c'est vrai que je préfère qu'en fait on se fasse être dans une parler de ces endroits et de ces gens, en fait essayer de faire que chacun en lisant on se fasse soi-même son avis, en fait, à partir de toute cette vérité multiple qui remonte en écoutant des gens, en voyant leurs photos. Même une photo, en fait, ça dit plein de choses. De on voit un visage, on se demande un peu qui...
Oui, vous êtes comme Juan Rulfo, en fait.
J'adore Juan Rulfo et le livre de Jean-Marie. Donc voilà, oui, non, je suis de ce côté-là, je pense.
Il y a un mot que j'aime beaucoup dans le livre de Sylvain Prudhomme. C'est le mot qui termine le livre et qui se trouve aussi au début. Je crois que c'est suavement, doucement, suavement. Et c'est l'impression qu'on a en lisant ce livre, c'est que toutes ces personnes que vous rencontrez expriment quelque chose de très doux, de très tendre et de très suave. Et c'est l'essence même, je crois, du Mexique, qui est présenté souvent comme un pays violent. Les films que vous mentionnez aussi au début sont des horreurs. Les films qu'on voit sur Netflix concernant le Mexique, c'est l'horreur absolue. Et au Mexique, les gens ne comprennent pas qu'on ait cette image. Il y a du sang au Mexique, mais ce qui surnage, ce qui surmonte le Mexique, c'est la suavité, c'est la douceur. Les images que j'ai du Mexique, c'est un peu celles que vous avez eues quand vous arrivez vers l'Atlantique et vous voyez ces paysages extraordinaires où il y a que quelqu'un vous dit « N'est-ce pas que c'est beau ici ?» Le coucher de soleil magnifique. Ce sont ces couleurs très tendres qui vont dans les gris, dans les roses, dans les ocres. Ce sont des couleurs un peu de pays désertiques, peut-être, mais en tout cas de pays où la lumière plus chargée d'humidité, où je ne sais pas, où la lumière est diffuse, elle n'est pas une lumière brutale et violente. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aimé tout de suite au Mexique. Ce qui m'a donné le coup de foudre, ce sont ces couleurs dans le rose, dans l'ocre et dans le jaune pâle. Ce sont ces couleurs-là que j'ai retrouvées en vous lisant.
Sylvain Prudhomme, on parlait de Juan Rulfo. Vous ouvrez votre livre avec cette citation de James Agee. « Si je le pouvais, ici je n'écrirais rien du tout. Il y aurait des photographies. » Pour le reste, des morceaux d'étoffe, des déchets de coton, des grumelons de terre, des paroles rapportées, des bouts de bois, des pièces de fer, des fioles d'odeur, des assiettées de nourriture et d'excréments. Et je voulais savoir comment vous viviez tous les deux. C'est notre époque de l'hypercommunication. Et comment on fait pour pas se laisser contaminer par tous ces mots, Jean-Marie Gustave Le Clézio?
Il faut des personnes comme Sylvain Prudhomme pour nous montrer la voie, ou Régent Ducharme. Régent Ducharme, à un certain point de sa vie, arrête d'écrire. Lui aussi, il entre dans le silence et il collectionne tout ce dont vous parlez. Les bouts de coton, les bouts de papier, les objets ramassés par terre, même parfois des excréments. Il les colle sur des plaques. Ce sont ses œuvres.
Vous avez quand même le fantasme de l'arrêt de l'écriture.
Je crois que tous les écrivains doivent ressentir ça. Parce que le langage a quelque chose de pléthorique, donc on aimerait se limiter, on aimerait à un certain point, il n'y a pas de plus, il n'y a pas d'avantage, on s'arrête là et c'est bon. Mais non, moi je ne l'ai pas atteint malheureusement, et je ne pense pas que je vais l'atteindre avant d'avoir fini mes jours. J'admire ça chez certains. Certains, peut-être ce sera le cas de Sylvain Prudhomme. Peut-être
qu'il
va commencer à collectionner comme du charme des objets au long de la route.
Voilà, ça commence avec les photos.
Et ça nous parlera aussi. Parce que ces choix-là aussi sont importants.
Bon, merci de tout ce que vous dites, hein, vraiment. Et je suis comme vous. Enfin, on est sans cesse en même temps repris par l'envie à nouveau d'écrire, en fait, quelque chose qui je pense, a à voir avec le. Avec une émotion qu'on ressent sans cesse en face du monde, en fait, avec quelque chose qui nous, on voudrait se taire, et en même temps, sans cesse, on a quand même envie de dire, là, ça me touche, ça c'est beau, j'ai envie de le nommer, j'ai envie de chercher les mots pour le dire, et ça recommence en fait. Donc,
Oui, c'est tellement vrai que Juana Inés de la Cruz, quand elle s'arrête d'écrire, elle en est malade. Et donc elle continue à écrire en cachette, et là elle envoie des bouts de ce qu'elle écrit à son ami de cœur qui est retourné en Espagne, qui la abandonne quand elle a 36 ans, et elle-même, Juana Inés de la Cruz, va mourir 4 ans plus tard. Donc elle s'arrête d'écrire, mais elle continue par certains côtés. Elle donne des cours de chant. Et là, le chant, peut-être, ça a quelque chose à voir avec la littérature. Et Rulfo, il s'arrête d'écrire, mais du coup, il est obligé de passer par les électrochocs. On l'envoie dans un hôpital, il subit une séance d'électrochocs, parce que quand vous arrêtez d'écrire et que vous êtes seul face à vous-même, il y a quelque chose qui ne va plus, et quelque chose qui déborde. Et Luis González, lui, s'arrête avec une certaine énergie qui fait qu'il continue de parler, de recevoir des gens et de les guider dans la vie. Les étudiants qui sont un peu comme ses enfants, des projections de lui-même. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui va lui manquer dans cet arrêt de l'écriture. Je crois que les écrivains, ce sont des gens particulièrement fragiles et particulièrement soumis à la fascination de l'écriture. Et lorsqu'ils s'arrêtent, ils sont malades. Donc je ne vous souhaite pas de vous arrêter.
On retrouve à nos côtés notre libraire francilien Thomas Auxerre de la librairie Les Amandiers à Puteaux. Bonjour Thomas.
Bonjour Lilia, bonjour tout le monde.
Vous êtes un fidèle lecteur de Sylvain Prudhomme et vous êtes laissé embarquer par son road trip.
Pour tout vous dire, hein, Lilia, c'est toujours un plaisir d'avoir un Sylvain Prudhomme entre les mains et celui-ci n'échappe pas à la règle. Bah, vous arrivez, Sylvain, à nous plonger dans votre roman-récit vraiment en 3 pages. On est avec vous sur le macadam, sac à dos, sac sur le dos, attendre le pouce en l'air de la Californie à l'océan Atlantique. On attend avec vous, on a chaud avec vous, on a beaucoup chaud hein, quand même. On s'ennuie parfois aussi avec vous, et là d'un coup, paf, une voiture s'arrête, on monte, et vraiment c'est la magie de la rencontre, de l'inattendu. Vous arrivez à faire de ces échanges, de quelques kilomètres parfois, des portraits fugaces mais vraiment profonds. Vos conducteurs se racontent la route, racontent leur pays aussi, des deux côtés de la frontière. Les kilomètres défilent, les paysages ne se ressemblent pas, comme les personnes avec qui vous embarquez. Et vous nous livrez vraiment des portraits avec justesse, tout en nuances. Moi, je dirais que ce livre, c'est une réussite. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Qu'il y a la route, ses surprises, et puis aussi votre regard plein d'humanité, de curiosité, et puis de malice aussi.
À un moment, alors je sais plus. Oui, c'est un ancien soldat, un ancien soldat qui a fait l'Irak, qui est dealer, qui vous prend en stop et qui vous dit. Alors comme ça, t'es journaliste, écrivain, c'est pareil, qu'est-ce que tu nous emmerdes à faire le malin? T'es journaliste et t'écris un papier sur la zone frontalière, haha, et tu fais ça en stop, t'es malade mon gars, qu'est-ce qui t'arrive, t'en as marre de vivre? Donc ma question, t'en avais marre de vivre, Sylvain Prudhomme?
Non, mais curieusement, c'est vrai que ce qui reste de ce voyage, pour moi, c'est vraiment un... Ça a été un moment très heureux, je pense aussi du fait de toutes ces rencontres. En fait, l'autostop a cet effet un peu euphorisant qu'on est pris, on avance presque un peu par magie comme ça. On est porté par quand même
le hasard
et puis des gens qui l'hospitalité de plein de gens. Donc ça, on entre dans un état un peu second qui peut-être. Mais même d'écrire ce livre après coup, de retourner le creuser, l'approfondir, c'était. Oui, j'avais du bonheur à le faire parce que je retournais. En fait, c'est des moments, oui, où finalement tout s'est bien passé. En plus, ça se termine bien. Quoi. Donc, j'avais envie de retourner. Même le titre Coyote, je me disais, mais en fait, j'aime être Coyote là. J'aime y retourner. Au même moment, j'écrivais un livre qui s'appelait L'enfant dans le taxi, et j'allais un peu de l'un à l'autre. Et L'enfant dans le taxi, bah, c'est un autre programme. On est toujours un peu le titre du livre qu'on.
Oui,
qu'on
c'est vrai. Écrit. Vous dites que vous êtes Coyote. Qu'est-ce que vous avez de commun? Enfin, vous dites, en plus, Coyote, c'est un mot qui dans toutes les langues se prononce de la même manière. Enfin, et s'écrit pareil.
Moi, bien sûr que c'est aussi une référence au sens qu'il a, dont vous parliez au début de l'émission, là-bas, dans cette
le
zone,
passeur
le passeur. Mais je pensais beaucoup à l'animal aussi, tout simplement, le vagabond du bord des bords de route, qui est un peu quand même à la marge, mais qui est aussi au soleil, qui a chaud, ça me paraît désirable que le devenir coyote. Enfin voilà, s'il faut se réincarner un jour, je veux bien retourner là-bas dans ces paysages dont vous parliez, Jean-Marie, dans ce désert. Et j'en avais la sensation à chaque fois que je retournais dans ce livre, en fait, à l'écrire, prendre soin de la parole des gens qui m'avaient accordé leur hospitalité. Enfin voilà.
Vous aimeriez être réincarné en coyote?
S'il faut choisir, je prends. Ouais,
Et vous, Jean-Marie Gustave Le Clézio, si vous deviez être réincarné?
Oui, ce serait sûrement pas dans un animal. j'aimerais plutôt me réincarner dans un être humain. Parce que les animaux, je ne connais pas bien. Je ne sais pas ce que c'est que de vivre comme un animal. Mais bon, les coyotes, c'est un animal intéressant à regarder. C'est très intéressant de les regarder chasser. Parce que le coyote, contrairement à l'idée qu'on se fait, c'est un animal grégaire. Finalement, c'est un animal assez valorisé. Un des grands rois du Mexique, c'était Nezahualcoyotl, le coyote qui a faim. c'est ce que voulait dire son nom. Et ça a été un des grands personnages du Mexique, un des grands empereurs du Mexique, qui a favorisé les lettres, qui a eu une conduite pas très honnête avec les femmes. Il a pris des femmes il a fait condamner à mort des gens pour pouvoir prendre leurs femmes. Ça, c'était pas très bien. Peut-être que les coyotes font ça.
Et Thomas, ça, vous aviez une question sur Trump et sur aujourd'hui à poser à Sylvain Prudhomme.
Là, aujourd'hui, s'il fallait refaire le chemin, s'il fallait repartir sur la route avec le nouveau mandat de Trump, est-ce que vous le referiez ?
Alors, c'est vrai que je sais pas du tout. Là, c'est vrai que la situation semble s'être encore considérablement durcie par rapport à son premier mandat, parce que c'est vrai que ce voyage avait été fait pendant le premier mandat de Trump. Après, je pense que encore maintenant, il y a toujours ce hiatus entre ce qu'on perçoit de la... à travers les médias qui évidemment nous racontent tout ce qui chaque fois se passe de tragique et la réalité de la vie qui continue là-bas de toute façon le long de cette frontière plein de gens vivent et j'entendrais peut-être pas les mêmes choses dans les voitures
oui.
les
discours seraient oui ce serait intéressant moi je pense sans donner d'idées à votre voilà. éditeur je trouve que c'est intéressant. Merci à Thomas, vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour vos conseils de lecture, mais d'abord on écoute Stéphane Escher, Sauvage Continent.
Mais comment deviner, comment savoir quoi faire? Quelle grimace inventée, quel fichu inventeur? Mais comment deviner le mal qu'on peut se faire? Quel feu avait couvert? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Quel terrible univers? Qu'avais-tu découvert? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Mais comment deviner qui ira en enfer? Ou qui paiera le prix? Qui paiera le plus cher? C'est la mélancolie. Les avis diffèrent. Certains voient tout en gris. Certains deviennent amers. Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Quel terrible univers? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Rien y faire. Mais comment deviner que nous serions en guerre, qu'il faudrait se quitter, ne plus revenir en arrière. Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Quel terrible univers? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent, quel terrible univers, qu'avais-tu découvert? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Etc. Nous sommes toujours en compagnie des romanciers JMG Le Clésio et Sylvain Prudhomme. Et avec nos libraires, c'est l'heure des conseils lecture de la semaine.
Au livre, etc. Lilia Hassen.
Aurélie Vergieux, vous aviez un conseil de lecture pour Jean-Marie Gustave Le Clésio.
Oui, parce que comme chez vous, l'écriture et le voyage sont indissociables, je pense que vous pourriez aimer lire des textes qui ont été écrits par Nellie Bly à la fin du 19e siècle, et qui sont édités actuellement chez Point. Et c'est intitulé « Les fabuleuses aventures de Nellie Bly ». En fait, Nellie Bly, c'était le pseudonyme de Elizabeth Eugene Cochrane, née donc pendant la deuxième moitié du 19e siècle aux États-Unis. Et d'origine modeste, elle était destinée à devenir demoiselle de compagnie ou gouvernante. Mais son talent pour l'écriture et son ton incisif et impertinent lui ont permis de faire ses premiers pas en tant que journaliste. Et elle a écrit un livre sur les 6 mois qu'elle a passé au Mexique, justement. Elle en a écrit un autre au sujet d'un asile psychiatrique dans lequel elle s'est fait interner pendant 10 jours. Et le monde entier a retenu son souffle pendant qu'elle tentait de faire le tour du monde en moins de 80 jours en réponse au roman de Jules Verne. C'était une femme de caractère, donc, vive, intelligente, et sachant brillamment manier la plume, à l'instar de Juana Inés de la Cruz.
Merci Aurélie, vous la connaissiez ?
Non, pas du tout, mais je vais me précipiter pour lire.
Moi aussi, je ne connaissais pas.
Pour la lire, et j'aime beaucoup les récits de voyage, donc ça va m'intéresser. Et j'aime beaucoup l'idée qu'au 19e siècle, quelqu'un comme elle est... affronter le monde, parce que ce n'était pas facile au 19e siècle de voyager. Il fallait ou bien beaucoup d'argent, ou il fallait un sacré courage. Donc je pense qu'elle n'a peut-être pas eu le premier, mais elle avait sûrement le deuxième.
Alors le titre du recueil, c'est donc « Les fabuleuses aventures de Nellie Bly » et c'est publié chez Point. Merci Aurélie. Et vous, Thomas Hausser, que nous conseillez-vous cette semaine ?
Eh ben alors moi cette semaine je conseille j'ai 2 coups de cœur mexicains en fait hein, c'est pour faire honneur bien sûr aux invités. Le premier c'est un roman dont le titre est El Último Lector. C'est écrit par David Toscana, c'est traduit en poche chez Zulma. Alors dans ce roman Lilia, vous suivez un personnage qui va découvrir au fond d'un puits le corps d'une fillette inconnue. Alors ce personnage c'est le bibliothécaire du village qui va mener l'enquête, mais il va le faire à la lumière des romans qu'il a lus. Et on peut dire avec fureur et délectation, vraiment. Alors je sais pas si vous l'avez lu Jean-Marie, mais je pense qu'avec le réalisme magique et la virtuosité qu'il y a dans ce roman un peu à la Rulfo, je pense qu'il vous plairait beaucoup. Et si j'avais un deuxième roman, rapidement, c'est un coup de cœur pour une autrice qui s'appelle Aoro Xilonen, dont j'ai adoré le premier roman Gabacho, elle a écrit il y a une dizaine d'années, où on suit Liberio, un gamin des rues qui n'a peur de rien, surtout depuis qu'il a fui son Mexique natal et traversé la frontière au péril de sa vie. Alors lui, il nous raconte dans une langue ébouriffante ses galères de jeune clandestin et son travail à la librairie hispanique qu'il emploie et où il dévore des bouquins. Je trouve que par son côté touchant, parfois drôle, souvent percutant, il fait aussi écho à votre livre, Sylvain. Et pour moi, c'est vraiment le grand roman d'apprentissage mexicain. Donc je le recommande à tous très chaudement.
Merci beaucoup.
Merci
Thomas. Jean-Marie Gustave Le Clézio, dans Le procès-verbal, votre premier roman que j'ai ici, vous exprimiez vos ambitions secrètes. Vous écrivez « Je ne désespère pas de parfaire plus tard un roman vraiment effectif, quelque chose dans le génie de Conan Doyle qui s'adresserait non pas aux gouvéristes du public dans les grandes lignes de l'analyse psychologique et de l'illustration, mais à sa sentimentalité. » Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi ou est-ce que c'est encore en projet?
Je ne suis pas arrivé à faire pousser un soupir à une jeune fille comme j'imagine que je pourrais le faire à cette époque-là. Il me reste encore quelques années. Peut-être je vais y arriver.
Un grand roman sentimental.
Grand roman sentimental, oui, c'est ça.
Merci Jean-Marie Gustave Le Clézio, c'est la fin de cette émission. Avant de se quitter, j'aimerais recommander vos livres. Trois Mexiques, publié chez Gallimard, une célébration brillante de la matria face à la patrie, de l'identité nomade face au repli nationaliste. Je recommande aussi Coyote, de Sylvain Prudhomme, aux éditions de Minuit, carnet de voyage polyphonique qui restitue la musique des voix anonymes et la réalité vécue de ceux qui habitent la zone frontalière entre le Mexique et les États-Unis. Je ne l'ai pas dit, mais c'est souvent très drôle. Merci enfin à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Gaspard Guy Bourget à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivier à la programmation. Je rappelle que Livre etc. est une coproduction de la RTBF, la RTS et Radio-Canada. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain.